mémoire se noie dans un flot d'images. L'océan avale la source et nous inonde. La montée des eaux, le déluge, il faut des abris. Peu importe que je rapporte ici l'histoire d'un jeune afghan ou d'une abeille ouvrière. Nous sommes nous aussi les réfugiés de cet insoutenable ordinaire. Il faut des lieux qui ne soient pas des stèles, qui ne soient pas d'esthètes. Des lieux libres, peut-être analphabètes. Il ne s'agit plus de pleurer ou de râler. Maintenant, c'est de vivre dont il s'agit. Il faut des lieux de vie, des lieux pour l'esprit. Ainsi dit, le dire lieu.
Ce que je vous propose, c'est d'écouter les deux prochains témoignages. Alors, je ne sais pas si Christine est là. Je cherche Christine. Elle est partie ? Elle est où, Christine ? Ah, elle est là-bas, oui, elle est en train d'écrire quelque chose. Christine, tu m'entends ? Pas grave. Oh. Non, je veux pas faire un discours. En fait, je voulais vous présenter deux luttes différentes, deux façons aussi de voir comment les politiques de Macron peuvent avoir une incidence sur la vie quotidienne des salariés ou des agents des collectivités territoriales. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par les collectivités territoriales, de comparer un petit peu entre le public et le privé pour s'apercevoir qu'en réalité, les difficultés sont, même si elles sont différentes, elles apparaissent en fait dans un contexte qui est comparable. Alors, c'est pour ça que je voudrais demander à Christine Gagnère et puis à Marie-Christine Frochasson de venir. L'une, alors donc pour Carrefour, elle est représentante CGT de Carrefour sur Bray et largement au-delà. Et puis Marie-Christine, elle travaille à Nantes dans la fonction publique territoriale. Ça va me revenir au conseil, au centre de gestion de Loire-Atlantique. Voilà, Christine, tu veux commencer ?
Bonjour, moi je m'appelle Christine Gagnère, je suis déléguée syndicale à Carrefour Market à Bray-sur-Seine, juste à côté. Et puis je suis aussi titulaire au comité de groupe Carrefour qui s'occupe de tous les Carrefour de France. Le 23 janvier, notre PDG, notre bon PDG, nous a annoncé un plan social d'une ampleur inégalée en France puisque ça va toucher à peu près 10 000 personnes. 2400 dans les sièges, 2100 dans la proxy, plus d'un millier dans les hyper et toutes les locations gérances qui vont se faire en hypermarché, supermarché. Un plan inimaginable. 110 000 à peu près salariés sur le groupe Carrefour, 100 000, moins de 100 000 bientôt sur le plan 2020 Carrefour. Ce qu'a annoncé Alexandre Bompard, c'est un peu ce que Macron aussi fait au niveau du gouvernement, c'est la libéralisation, c'est le libéralisme partout, forcené, à marche forcée, où la société de demain, que le capitalisme voudrait bien se voir profiler. C'est un supermarché ou un hypermarché sans salariés, avec des robots, pas de robots, mais en tout cas avec des caisses automatiques, avec une logistique qui sera faite aussi par des robots, où il n'y aura quasiment plus aucun salarié. Donc, est-ce qu'on veut une société comme ça ? C'est aussi cette société-là qui va se profiler. Il faut savoir que les emplois chez Carrefour, c'est souvent les premiers emplois des gens. Tous les étudiants, les jeunes ont souvent commencé par là, un petit coup de pouce. C'est les emplois les moins qualifiés en France. Donc, toutes les personnes qui sont le moins qualifiées, ils ont au moins un accès à l'emploi par la grande distribution. Et que cette destruction de ces emplois, qui est qu'une première étape, hein, ces 10 000-là, prévoit d'autres encore à une autre échelle, c'est aussi une aggravation du chômage et de l'emploi en France. Donc, c'est une société de demain qu'on nous projette sans salariés, où le travail n'a plus de valeur et où les gens, c'est la barbarie qui va s'imposer. C'est aussi ça qu'il faut voir dans le plan Bompard. Le plan Bompard, c'est le changement de société. Ça vient bien au-delà du commerce, ça va bien au-delà du simple fait qu'on va mettre une caisse automatique dans un supermarché. C'est dire, voilà, les gens, on n'en veut plus, on veut du profit, on ne veut pas donner de salaire et la richesse créée, on ne veut pas la partager. Hein. Le quand même Carrefour, j'avais les chiffres tout à l'heure, c'est des milliards de chiffre d'affaires. C'est 900 millions de bénéfices l'année dernière, 350 millions qui ont été donnés aux actionnaires. Et là, nous, on vient de recevoir la participation, 57 euros brut pour un temps complet, c'est-à-dire 7 millions pour les salariés. Ça vous montre d'un côté les 7 millions pour les salariés, 350 millions pour les actionnaires, avec 320 millions de CICE et d'exonération Fillon. L'argent, notre argent, l'argent de nos impôts, va payer les dividendes des actionnaires. Il y a une courroie de transmission entre ce qu'on nous on paye en impôts, alors que cet impôt-là, ça devrait être pour avoir des services publics, ça pourrait être pour une amélioration de l'éducation, des hôpitaux, de tout, de la vie de tous les jours, refaire que la Poste redevienne la Poste, faire que EDF soit encore un service public, que l'eau redevienne aussi régie communale et au service de tous. L'argent de nos impôts devrait servir à la population, ne devrait pas servir à la fois à payer les plans sociaux des grands groupes et à la fois à donner aux actionnaires. La courroie, enfin la convergence, puisque le mot est à la mode, hein. Moi j'aime pas trop convergence, mais c'est un mot à la mode. Disons que le rassemblement des luttes et le rapport qu'il y a entre les luttes des uns et les autres, elle a un même fondement, c'est la rapacité du capital et du libéralisme à nous piquer tout ce qu'on a, tout ce que les richesses qui sont produites par les salariés et les travailleurs. Et que notre but, ou alors nos combats, c'est le même, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les agents territoriaux, c'est le même, c'est pour conserver une société où on puisse répondre aux besoins de la population. Voilà, merci.
Juste une petite question, est-ce que tu peux nous dire où en est la lutte des Carrefour actuellement et comment elle va se profiler dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent ?
Alors, la lutte des Carrefour, elle a commencé bien avant les annonces Bompard et bien avant les 57 euros qui ont mis un peu le feu aux poudres. Nous, depuis le mois de décembre, on a fait un rassemblement devant le siège à Massy. Ça devait être le 20 décembre. On a fait un rassemblement avec toutes les entités du groupe et c'est une grande première historique que les hypermarchés, les supermarchés, la proxy qui va beaucoup trinquer, hein, 273 magasins, 2100 personnes sur le carreau qui vont perdre leur emploi. Et c'est que le début, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça, c'est le premier plan. Le prochain, ça sera encore 5000 d'un côté, 10000 de l'autre. Hein. Ça, c'est Brie Contremer va fermer, à Melun, le Carrefour Contact va fermer. Enfin, il y en a beaucoup. Danemarie Lélis va aussi fermer. Il y en a beaucoup qui vont fermer et qui ne retrouveront pas d'emploi parce que ce qu'on dégraisse là, on ne le remettra pas ailleurs. Hein. Ils disent qu'on va retrouver du travail à ces gens-là. La Bourse pour l'emploi Carrefour, c'est 900 emplois. Les deux plans sociaux, 2400 et 2100, déjà, ça fait bien plus que les 900 emplois. Donc, ça a commencé déjà très tôt. On a eu les annonces Bompard. Nous, on a fait beaucoup de mouvements parce qu'on revendique du salaire. À la limite, la participation, on s'en tape, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir les 1800 euros que nous, la CGT, ben, puisque je suis la CGT, on revendique en bas de salaire. Là. C'est, les primes, c'est aléatoire, la preuve, la participation, et puis... Participation, ça c'est pour les actionnaires, on s'en fout, on n'en veut pas. On veut même rien donner aux actionnaires, mais voilà. Il paraît qu'il faut des actionnaires. Moi je ne suis pas persuadée, hein, mais voilà. Le mouvement dans les carrefours s'est beaucoup fait là-dessus, sur la dégradation aussi des conditions de travail, parce qu'il y a de moins en moins de salariés, vous le savez, hein, dans les supermarchés, vous voyez bien les queues, les rayons vides, il y a de moins en moins de monde dans les supermarchés. Et puis. Surtout les passages en location-gérance, parce que ça, c'est le grand mouvement aussi. On était un groupe intégré, c'est-à-dire qu'on était tous dans un même groupe. On avait un statut social, on avait des primes, on avait des choses, on avait au moins un salaire, on pouvait, quand on luttait tous ensemble. Là, ils nous mettent en location-gérance, c'est-à-dire que les murs appartiennent à Carrefour, le fonds de commerce appartient à Carrefour, mais seulement les salariés ne sont plus Carrefour, ils sont chez des indépendants. Et eux, les IRP, ben, elles tombent. Plus de comité d'entreprise, plus de délégués syndicaux, plus rien, des salariés qui sont face à un patron, et puis bah voilà, c'est la loi de la rentabilité. Si je te donne quelque chose, bah moi je récupère plus rien, et le patron il donne plus rien en salaire. Donc c'est aussi beaucoup ça, parce que nous sur les Carrefour Market, plus de la moitié maintenant des magasins Carrefour Market sont en location-gérance. C'est un vrai, vrai danger ça. C'est un vrai danger social, sur la démocratie sociale aussi, parce que le dialogue social ne peut pas se faire quand un patron en face de lui dit « Moi, pour bouffer, il faut que je vous crève, en fin de compte. Hein. Il faut que je vous exploite à fond. » Donc, on en est là. Les 57 euros ont fait que tout Carrefour a bougé sur la semaine de Pâques jusqu'au 31 mars, où il y a eu vraiment, vraiment des gros mouvements, où des hyper entiers ont été fermés. Ça, c'est historique, c'était jamais arrivé. Effo a lâché la maille en disant « Allez, Carrefour a donné 150 euros en bons d'achat à utiliser chez Carrefour pour calmer la colère sociale. Bientôt, ça sera des bons de réduction de 20 centimes qui nous donneront pour la colère sociale. » Et Effo a lâché l'affaire. Donc nous, on va continuer. Dans la semaine du 1er au 8 mai, normalement, nous, on refait des mouvements pour les NAO, puisqu'on vient d'avoir les NAO, là, ils nous donnent 1% au 1er janvier et 0,5% en septembre, ça fait que lycée, ça fait à peu près 1,2 sur l'année. Quand on sait que l'inflation est de 1,1, c'est-à-dire qu'ils ne donnent rien. Ils n'ont rien lâché en fin de compte. Donc on va recontinuer les mouvements et puis je vous tiendrai au courant pour la suite des mouvements.
Je voulais juste savoir aussi comment nous, on pouvait aider les salariés de Carrefour dans leur lutte. Justement, on parlait de convergence, même si le mot ne te plaît pas, en tout cas le rassemblement des luttes. Comment on pouvait, que ce soit ici sur le canton ou même au-delà, comment on pouvait vous aider?
En diffusant largement notre acte, peut-être. Et puis dès que j'ai connaissance d'un mouvement sur un magasin, quel qu'il soit, informer pour qu'on puisse venir en masse, à la fois syndicalement, mais aussi peut-être y donner une dimension politique pour pouvoir à ce moment-là peut-être écorner un peu l'image de marque de Carrefour et puis faire que la population ici, elle est très réceptive. Nous, c'est nos clients, c'est les gens qu'on voit tous les jours, ils savent très bien qu'on souffre et puis qu'on est très mal payé. Moi, ça fait quand même 28 ans que je travaille à Carrefour, je touche 1200 euros par mois. Je suis responsable de rayon, c'est-à-dire que je ne suis pas en bas de l'échelle, moi, je suis juste avant les agents de maîtrise. Donc ça veut dire qu'on n'est on pas payé, quoi. On est exploité, on est esclave hein, pour eux de toute façon. Donc dès que j'ai connaissance d'un mouvement sur un ou magasin, je vous contacte de toute façon.
D'accord, bravo. Alors justement, il y a peut-être une relation, c'est qu'on a du mal à avoir des luttes qui sont de plus en plus sectorielles, on a du mal à avoir une certaine convergence des luttes. Il y a peut-être aussi la possibilité d'avoir des convergences des luttes sur des territoires, peut-être sur le canton ou le canton élargi ou le sud de la Seine-et-Marne. On a vu tout à l'heure avec le collectif Sud-Seine-et-Marne contre la politique de Macron. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir interroger les agents des collectivités territoriales qui traversent aussi beaucoup de difficultés. Vous savez que les communes, les collectivités territoriales en général, que ce soit la région, le département, mais ça peut être aussi les syndicats mixtes, ça peut être les EPCI, donc les intercommunalités ou les collectivités territoriales locales, vraiment comme les communes, ont vu leur dotation globale être réduite de manière sensible. Donc d'un côté, on leur demande de faire toujours plus avec nettement moins, ce qui pose évidemment des problèmes, non seulement pour les élus, évidemment, mais aussi pour les agents territoriaux. Voilà, c'est pour ça que je vous propose d'écouter Marie-Christine.
Oui, bonjour. Bon, donc je suis DRH dans la fonction publique et depuis un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai vu très nettement l'évolution des choses sur une trentaine d'années. C'est assez ahurissant, c'est-à-dire que les élus, quel que soit leur bord, il y a 30 ans, avaient une vraie volonté d'apporter quelque chose à la population. Les nouveaux élus, en particulier depuis les dernières élections municipales, et je pense que ce sera pire aux prochaines, arrivent avec une logique en disant une commune, ça se gère comme une entreprise. Et ils sont vraiment de plus en plus nombreux, je ne dis pas tous, hein, heureusement, mais ils sont vraiment de plus en plus nombreux à avoir cette logique-là. Et derrière, ce qui se profile, c'est la suppression du statut. Alors, je parle pour la fonction publique territoriale, mais je pense que la même chose arrivera pour l'État et pour les hospitaliers. Hein, on ne se fait pas trop d'illusions. C'est-à-dire que on va remplacer petit à petit un peu ce qui va se faire si ça passe pour la SNCF. On va remplacer petit à petit les gens avec un statut particulier par des contractuels. Et ce qu'il y a derrière cette suppression du statut, c'est pas seulement l'histoire de la sécurité de l'emploi, toujours pareil, on est tous des privilégiés, voilà. Bon. Ce qu'il y a derrière, c'est que cette sécurité de l'emploi, derrière, il y a une protection contre l'arbitraire. Parce que les fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique, travaillent pour un employeur qui a des droits qui outrepassent de très loin les droits d'un employeur privé. Un État peut se permettre quasiment n'importe quoi. Or, le statut, derrière, c'est ça aussi. C'est la protection contre l'arbitraire et c'est donc, comment dire, je ne trouve plus mes mots, excusez-moi, c'est la continuité du service public qui est derrière. Parce que si on peut virer les gens à tout bout de champ, n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, derrière, il n'y a pas de transmission du savoir. On recrute des gens à l'extérieur qui ne connaissent rien au fonctionnement et on n'a plus de continuité du service public. Donc le statut, c'est ça aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'étude des RPS dans la fonction publique. Ça fait un petit moment qu'on le fait dans le privé, un peu moins dans le public. Alors, les RPS, ce sont les risques psychosociaux. Et si on en parle autant, c'est parce qu'effectivement, il y a un texte qui a été voté qui a rendu ça obligatoire. Mais c'est aussi parce que les fonctionnaires vont de plus en plus mal. Je ne connais pas trop l'État et l'hospitalière, donc je ne peux pas trop me permettre d'en parler. Mais dans la territoriale, on se retrouve avec toutes les missions dont l'État s'est déchargé et moins d'argent. Et après, on reproche aux collectivités territoriales de continuer de recruter. Elles recrutent de moins en moins, mais elles recrutent encore un tout petit peu. On leur reproche ça alors qu'on leur a refilé je ne sais pas combien de missions supplémentaires. Donc là, il y a un truc qui ne va pas du tout, du tout. Mais bon. Donc ce problème des RPS, c'est ça, c'est un surcroît de travail. Et c'est aussi lié à cette nouvelle vision de certains élus, de l'apparition d'un nouveau management qui fait des dégâts monstrueux. Parce qu'on demande en fait aux fonctionnaires, moi je sais que dans un centre de gestion, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais il y a des missions obligatoires et il y a des missions que le centre de gestion peut créer en fonction de l'impression qu'il a des besoins des collectivités, mais ce sont des missions payantes. Et sur ces postes-là, la logique qui apparaît, c'est le poste, on le maintient, à condition que vous fassiez rentrer suffisamment d'argent pour que ça paye votre salaire. Et donc, ces gens-là, on leur met la pression par rapport à l'argent qu'il faut rentrer. C'est tout bête. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, et tout ça c'est toujours lié à cette nouvelle logique, c'est que de plus en plus on parle de clients et non plus d'usagers. Et ça commence à devenir vrai aussi dans la fonction publique pure et dure, j'allais dire. Et de la même façon qu'on ne parle plus d'agents du service public, mais de salariés du service public. Et ça, ce ne sont pas des mots qui arrivent là par hasard. Il y a toute une logique derrière. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis bientôt à la retraite et que ça m'arrange parce que là, je ne peux plus les supporter.
Merci Marie. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou est-ce que quelqu'un a une question, a une proposition, a une anecdote? Non, bah, je voulais juste vous dire, sinon sur les... Oui, allez-y.
Donc, ben, je me présente. Moi, je suis un jeune, mais très, très jeune retraité. Voilà. Donc, moi, je suis issu de l'entreprise nationalisée EDF, qui est petit à petit en train de perdre un peu tout son caractère nationalisé et puis toute la notion de service public qu'elle avait avant. Alors, pour vous donner quelques exemples, moi je suis arrivé à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en 2010. Nous étions 16 dans mon service, j'avais une chef de section et on avait 15 agents qui étaient répartis entre techniciens et ouvriers. Et on faisait le travail pour l'ensemble de la centrale. Et on avait en plus 5 intérimaires. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a travaillé avec moi là-bas, voilà, et qui aussi était intérimaire parmi nous. Et puis petit à petit, on nous a fait comprendre qu'il y avait des métiers pas valorisants, que c'était pas bien, que ce serait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. Et petit à petit, s'est mis en place une réforme qui n'avait pas son nom, où on supprimait des postes chez nous et on embauchait une boîte de prestations. Et la boîte de prestations faisait exactement le même travail que les agents faisaient. C'est-à-dire qu'on avait des agents à deux vitesses. On avait les agents EDF qui, eux, faisaient leur travail, qui faisaient un certain travail. Et on avait une boîte de prestations qui faisait le même travail que nous. Mais pas dans les mêmes conditions. Pas avec les mêmes salaires. Pas avec les mêmes acquis. Pas avec la même hiérarchie. Et on s'est retrouvé petit à petit dans cette situation. Voilà, donc moi, je suis parti... En 2017, voilà, donc ça va bientôt faire un an de retraite. Et donc, quand je suis parti, eh ben, on n'était plus que 4. Un chèque de section, 4 agents EDF, et tout le reste, ce sont des boîtes de prestations qui font le travail qu'on faisait nous. C'est-à-dire que grâce à ça, EDF a économisé 12 postes d'agents qui étaient au statut pour refiler ça à une société de prestations à qui on donne des cacahuètes. Le personnel est payé, comme disait un petit peu la dame tout à l'heure de Carrefour Market, entre 1000 et 1500 euros par mois. Ce qui n'a rien à voir avec le salaire qu'a un agent DF. Et voilà, donc ça, c'est un peu, comment tout doucement déconstruire ce qui a fait la fierté des anciens, c'est-à-dire cette nationalisation d'un produit qui n'est pas une boîte de conserve ou des cacahuètes. L'électricité, si demain je vous la coupe, le frigo, la machine à laver, la vaisselle, ça ne marche plus. Hein. Donc on a fait de ce moyen de production et de cette énergie qui est indispensable pour tous, un produit financier qu'on est en train de petit à petit céder au capital, puisque EDF, faut savoir que maintenant elle est ouverte à la concurrence, que 70%, elle a perdu 30% au niveau des... Elle n'est plus que majoritaire à 70%, puisque 30% sont détenus par des actionnaires. Que ces actionnaires, ben là, eux, ils sont pas là, ce ne sont pas des philanthropes. Hein. Ils ne sont pas là pour faire les beaux. Hein. Ils sont là pour ramasser du pognon. Hein. Peu importe dans les conditions qu'on le ramasse et tout. Hein. Et on se retrouve avec des situations où avant, quand vous appeliez EDF, tout était gratuit. Maintenant, tout est payant. Hein. L'installation du compteur, la mise en service, vous avez une intervention à faire, le gars il vient, vous recevez la facture, voilà. Donc ça, c'est un peu la dégradation des services publics. Un service comme l'électricité, comme l'eau, il y a des services qu'on ne peut pas privatiser, comme la SNCF. Alors c'est bien beau, on parle de la SNCF, mais moi j'ai des copains qui sont cheminots, mais ils nous disent carrément, dit demain on peut faire passer des trains qui seront par des boîtes privées ou tout ça. Mais derrière, il y a un séquencement, il y a tout un tas de choses. Et puis après, on voit bien que de ce qui s'est passé un peu, quand on regarde un peu, puis qu'on feuillette un peu ce qui s'est passé dans les différents pays qui ont fait cette révolution, qui ont privatisé leur réseau ferré, on s'aperçoit que les prix ont augmenté, ont pris une augmentation phénoménale, que les lignes qui ont été rachetées par le privé, c'est les lignes rentables. Et puis toutes les petites lignes qui servent au quotidien, comme nous on a de Longueville à Paris ou de Montreux à Paris, eh ben c'est la SNCF qui va gérer et puis qui va se démerder avec le paquet cadeau, quoi. Voilà, donc c'est un peu une catastrophe, quoi. On est en train petit à petit de supprimer les acquis de 36-45 que nos anciens se sont battus pour avoir. Voilà. Après, maintenant, en tant que retraité, moi je suis très content. Car M. Macron m'a fait un beau cadeau au mois de janvier, puisque je perds 60 euros de retraite par mois. Alors je ne me plains pas, j'ai la chance d'avoir une bonne retraite, parce que j'ai fini comme presque cadre dans mon entreprise. Mais moi, je pense à tous nos anciens qui sont à 1000, 1200, 1300, 1400 euros, à qui on avait dit, vous inquiétez pas, vous êtes des nantis au-dessus de 1200 euros. Ce sont des nantis. Puisqu'on s'aperçoit, nous on a fait une petite action avec les copains de l'UL CGT de Montreux, puisque je suis à la section des syndicats retraités de Montreux, CGT, On a fait signer la pétition à Bray, donc on a fait à peu près 120 signatures en 2 heures. Et les anciens sont venus nous voir, ont signé la pétition, ils sont en colère, et ils nous disent, mais monsieur Macron nous a menti. Monsieur Macron, on ne devait pas payer de CSG. Moi, mes 1200 euros, ma femme et moi cumulés, eh ben on perd 10 euros, 15 euros, 20 euros de retraite par mois. Parce que les 1200 euros, c'était le chiffre annoncé, mais derrière, ce qu'ils n'ont pas dit, c'était que c'était par rapport au référentiel de l'imposition. Et quand on prend le référentiel de l'imposition, quand on ajoute les deux retraites, et ben voilà, on paye la CSG. Merci monsieur Macron pour nos anciens. Et là, moi, je suis très en colère parce que bon, moi, je suis jeune retraité, ça va, mais nos anciens qui se sont battus, qui ont travaillé pendant 40, 42, 43, 44, 45 ans, on leur dit gentiment, ben maintenant, il faut payer. Et là, monsieur Macron nous dit, on va peut-être mettre un deuxième jour de pour les salariés, pour les vieux. Alors d'un côté, il pique des sous dans la poche des vieux, de l'autre côté, il va piquer des sous dans la poche des salariés pour rembourser les vieux. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, bah, moi, je suis content d'être parmi vous. Et puis, il n'y a pas de problème. Si j'ai des infos, je les ferai passer aussi. Et puis, quand il y a des infos, n'hésitez pas à les faire passer. On viendra soutenir les camarades. Bon, j'ai été soutenir les filles de Carrefour Market la dernière fois quand elles ont fait leur action. On a fait signer la pétition aux clients qui venaient. Les clients étaient très réceptifs. On était dernièrement à la manifestation. J'étais à la manifestation à Paris. Et dès qu'il y a une action, ben, on se regroupe et puis on essaye de faire voir qu'on est là. Parce qu'à un moment donné, on peut pas continuer comme ça, quoi. Et la convergence des luttes, c'est une bonne chose. Mais va falloir s'y atteler parce que c'est pas évident de faire comprendre aux gens. Et quand on discute avec les gens autour de nous, Il y en a, ils ne comprennent pas, quoi. Si on ne leur explique pas bien comme il faut ce qui est en train de se passer, ils voient un peu ça. Alors, c'est sûr que si on écoute tous les médias toute la journée, on n'aura pas les bonnes infos. Hein. À un moment donné, il faut aller chercher l'info ailleurs, sinon on est mal. Hein. Voilà.
Okay. Moi, j'avais juste une question en ce qui concerne la sécurité des centrales nucléaires, notamment celle de Nogent. Le fait de sous-traiter à des privés, est-ce qu'il y a des risques plus importants en termes de sécurité ?
Le fait, alors moi je vais, ce débat fait rage depuis des années chez nous, puisque nous la CGT au sein des centrales nucléaires se bat pour du personnel qualifié qui est sous statut et qui est EDF, de manière à ce qu'on ait une plus grande vigilance sur les travaux qui sont faits dans les centrales nucléaires. Après, on en revient pour répondre à ta question, ce qui n'est pas évident. C'est comme c'est de la sous-traitance en cascade, c'est une grosse entreprise qui prend le marché et après elle sous-traite sous différentes cascades. Donc pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement, c'est pas évident. Donc les camarades qui sont dans les sections syndicales CGT de Montreux essayent de surveiller au maximum, essayent de surveiller ce qui se passe dans l'entreprise. Mais pour nous, c'est pas évident parce qu'on s'aperçoit par exemple que le gros chantier va être pris par Alstom et puis qu'après c'est plusieurs petites boîtes de sous-traitance qui vont le refiler à une boîte, qui va le refiler à une boîte, qui va le refiler à une boîte. Et on va se retrouver comme ça nous arrive de temps en temps. Les mecs, quand ils viennent faire les interventions, on retrouve un boucher qui est en train de démonter une vanne, quoi. Ça, c'est un exemple. Mais bon, après, au niveau de la sécurité, le risque zéro n'existe pas. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on a la chance sur ce type de centrales, c'est qu'elles n'ont rien à voir avec celles de Chernobyl, puisque ce sont des centrales à eau pressurisée. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Et ça, moi, je peux pas t'affirmer tout quoi. C'est pas possible. On peut pas jouer avec le feu. Donc après, moi, je pense qu'on a la chance d'avoir au sein de l'entreprise et au niveau des commandes des opérateurs qui ont tout un tas de procédures à appliquer en cas de problème. Et je pense que on peut leur faire confiance. Après, l'avenir nous dira ce qui va se passer, quoi.
Non, je pensais à ça parce que la privatisation, par exemple, a montré en Grande-Bretagne que les accidents ont largement augmenté après la privatisation. Il faut savoir que le statut, on parlait tout à l'heure du statut dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique en général. Le statut de cheminot, il permet aussi d'assurer une sécurité du train. Tant qu'il y avait le statut, il n'y a quasiment jamais eu d'accident. C'était le moyen de transport le plus fiable. Alors peut-être pas en nombre de kilomètres parce que ça sinon c'est l'avion, mais ça restait extrêmement fiable. Il est fort probable qu'avec la privatisation, le nombre d'accidents augmente.
Ça c'est un peu, d'ailleurs, le plus grand exemple, c'est l'Angleterre. Privatisation des chemins de fer en Angleterre, un grand nombre d'accidents. D'ailleurs, il y a un très beau film fait par Ken Loach qui explique un peu la bataille qu'ont mené les cheminots anglais contre cette privatisation. Bénéfice net, au bout de quelques années, l'Angleterre a renationalisé une partie du réseau. La meilleure chose qu'on peut vous dire, privatisation de l'énergie en Angleterre. Donc, on a vendu les centrales nucléaires et tout ça et tous les réseaux. Et au bout d'un moment, le gouvernement anglais a dit stop et ils ont remis dans le giron de l'État la partie nucléaire. Parce que, comme on dit, le nucléaire, c'est pas des cacahuètes hein, qu'ils font dedans. Hein. C'est vraiment c'est très surveillé comme truc. Donc voilà. Donc après, comme on dit, les gens s'ils se bougent pas, s'ils essayent pas d'analyser un peu ce qui est en train de se passer. Après, alors on en entend tant qu'ils disent pour les cheminots, ouais, c'est bien fait pour eux, c'est ceci, c'est cela, les tarifs seront meilleurs et tout. Ben, allez vous voir, regardez ce qui s'est passé dans les autres pays, essayez de comprendre. On nous dit, alors le gouvernement, le gars sous la main dit, vous inquiétez pas, les petites lignes, on va pas les supprimer. Ah non, c'est pas le gouvernement qui va les supprimer, les petites lignes. Le problème, c'est qu'on va refiler ça aux régions, et là, la copine des territoriaux, tout à l'heure, a donné un bon exemple. On va refiler ça aux régions, et puis les régions, ben, à bout d'un moment, quand la ligne sera vraiment trop déficitaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle supprimera la ligne, elle mettra des bus. Hein. Puis voilà, le problème sera résolu. Hein. Et puis, pour en venir à ce que disait la copine des territoriaux, on a aussi la loi NOTRe qui est passée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que la loi NOTRe? On va obliger les communes à mutualiser leurs moyens. Mais pourquoi on leur demande ça? C'est pour faire des économies, tout simplement. Moi, je peux vous dire, j'habite à Bray, donc je suis régulièrement ce qui se passe sur la commune. Là, je suis en train d'analyser le budget de la commune. De 2014 à 2018, l'État a supprimé 160 000 euros de subventions à la commune de Bray. Non, sur la totalité. 160 000 euros sur la totalité. Ben, 160 000 euros de moins, c'est des investissements en moins dans la commune. Et ça, c'est lié à quoi? Au pacte de responsabilité qui demandait d'économiser 11 milliards aux collectivités territoriales. Donc, après, on nous dit, bah, mutualisez vos moyens, on vous donnera des sous. Mais oui, mais ils feront comme ils font d'habitude. Ils vous compenseront la subvention une première année, puis les autres années, vous vous débrouillez. La taxe foncière, la taxe d'habitation, elle va être supprimée. Moi, j'ai fait le calcul. Si on supprime la taxe d'habitation à Bray, c'est 5 660 euros de moins pour la commune. 560 000 euros de moins pour la commune. Donc, voire un demi-million de moins pour la commune. Donc, ça veut dire que l'entretien de l'école, une réfection de toiture, on la fera peut-être pas tout de suite. Hein. Et ça, on nous dit, vous inquiétez pas, vous allez être compensé à l'euro près. Oui, la première année. Et puis, les autres années, on fera comment? Bah, la solution, elle est trouvée, hein. C'est on va augmenter la taxe foncière, on va augmenter les impôts locaux, on mettra peut-être une petite taxe sur les cabanes de jardin, ou on fera peut-être une taxe de balayage parce qu'on va balayer la... Voilà, donc à un moment donné... Alors on nous dit aussi, on va mutualiser. Alors bon, il y a eu le fameux épisode chez nous, à Bray, là où ils voulaient mutualiser Mouillet-Bray. Bon, notre maire parti la fleur au fusil, s'est fait rebouler. Mais ça, si demain on mutualise deux communes, il y a deux écoles, une école dans chaque commune, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer une des deux écoles, hein, puis on va regrouper tout dans la même pour faire des économies. Hein. Voilà, c'est tout un tas de choses qui sont enclenchées par Macron, qui découlent depuis des années et des années. Et là, je pense qu'on est à l'os, et donc Macron, il va essayer de passer tout ce qu'il peut maintenant, donc la suppression des services publics, la SNCF, EDF, tout, et puis de passer tout ça à leurs copains. Les autoroutes, on nous a dit, vous inquiétez pas, les autoroutes, quand elles seront payées, vous ne payerez plus l'autoroute. On paye toujours l'autoroute, et encore en plus, c'est même plus pour nous qu'on la paye, c'est pour les actionnaires. Voilà un autre exemple de choses qui sont vraiment absurdes, quoi.
Merci beaucoup, bravo. On se fait une petite pause musicale. Vas-y, reste ténère.
La mémoire se noie dans un flot d'images. L'océan ravale la source et nous inonde. La montée des eaux, le déluge, il faut des abris. Peu importe que je rapporte ici l'histoire d'un jeune Afghan ou d'une abeille ouvrière. Nous sommes nous aussi les réfugiés de cet insoutenable ordinaire. Il faut des lieux qui ne soient pas des stèles, qui ne soient pas d'esthètes, des lieux libres, peut-être un alphabète. Il ne s'agit plus de pleurer ou de râler, maintenant c'est de vivre dont il s'agit. Il faut des lieux de vie, des lieux pour l'esprit. Ainsi dit, le dire lieu.